Chapitre 2e. Nous laisserons M. Cloarec se rendre au palais de justice pour y siéger comme d'habitude, après les exploits de cette matinée qui eût fait honneur à un gladiateur consommé. Nous dirons quelques mots du bal costumé auquel les témoins de l'impétueux magistrat avaient fait allusion après le duel. Ce bal, innovation hardie pour la province, devait avoir lieu le soir même chez M. Bonneval, riche négociant et beau-père du président du tribunal, où siégeait Yvon Cloarec. Tous les membres de cette cour de justice ayant été conviés à cette fête, et le déguisement étant de rigueur, ils étaient convenus d'adopter l'imposant domino noir ou des costumes d'un caractère assez sérieux pour ne pas compromettre la gravité de la magistrature. Cloarec, nous l'avons dit, était l'un des invités. Le bruit de son duel et de la punition qu'il avait infligée aux campagnards, bien que malheureusement déjà répandu dans la ville, n'était pas, à la fin de la journée, parvenu aux oreilles de Madame Cloarec. La maison du magistrat était donc parfaitement calme, et l'on s'y occupait, comme dans bien d'autres demeures, dès après du déguisement du soir, car à cette époque, les costumiers étaient rares en province. La salle à manger du modeste logis semblait ce jour-là changer en une officine de tailleur. L'on y voyait des rognures d'étoffes de couleurs variées, des débris de passementerie de soie et d'argent. Trois jeunes ouvrières, jaseuses comme des grives, babillaient tout en travaillant sous la surveillance d'une femme de 30 ans environ, persona corte, de mine ouverte et avenante. Les jeunes filles la nommaient respectueusement Dame Robert. Cette digne femme, après avoir été nourrice de la fille de M. Cloarec, alors âgée de 5 ans, remplissait auprès de Mme Cloarec l'emploi de femme de chambre, ou plutôt de femme de confiance. Car, ensuite de son dévouement et de ses excellents services, il s'était établi entre sa maîtresse et elle une sorte d'affectueuse familiarité. Encore un point et le ruban brodé de ce chapeau est attaché, dit une des jeunes ouvrières. Moi j'ai fini d'ourler l'écharpe, reprit une autre. Je n'ai plus que quelques boutons d'argent attachés à la passementerie de ce gilet, ajouta la troisième. Très bien, mes filles, dit Dame Robert. « Le costume de M. Cloarec sera, j'en suis sûr, l'un des mieux choisis de la fête. »« Dame Robert, c'est tout de même bien drôle. »« Quoi ? Un juge déguisé ?»« Tiens, » reprit une autre ouvrière. « Est-ce qu'ils ne le sont pas tous les jours, déguisés, quand ils ont leur robe ?»« Apprenez, petite fille, » dit sévèrement Dame Robert, « qu'une robe de juge n'est pas un déguisement, mais un costume officiel. »« Excusez, Dame Robert, » dit la jeune fille en devenant rouge jusqu'aux oreilles. « Je ne pensais pas mal en disant cela. »« Quel dommage que Mme Cloarec perde cette belle occasion de se déguiser, » reprit une autre ouvrière, afin de rompre la sévérité de l'entretien. « Ah !» reprit une de ses compagnes avec un soupir de regret et d'envie. « Si j'étais à la place de Mme Cloarec, je ne la laisserais pas perdre, moi, cette occasion-là. Un bal costumé. On ne rencontre un bonheur pareil qu'une fois dans sa vie, peut-être. » Si vous pouviez savoir pourquoi Mme Cloarec se prive de ce plaisir, reprit Dame Robert, vous ne seriez plus étonnée, mes demoiselles. Qu'est-ce donc qui empêche Mme Cloarec d'aller à cette fête, Dame Robert? L'on ne peut pas dire cela de petite fille, répondit la femme de confiance d'un air solennel, pendant que les jeunes ouvrières, ayant terminé leur travail, se préparaient à quitter la maison, car la nuit approchait. Au moment où les trois jeunes filles allaient sortir, un autre personnage entra dans la salle à manger. Ah, voilà M. Ségoffin, dirent les ouvrières d'un ton railleur et familier. « Eh, bonjour donc, M. Ségoffin. Comment se porte, M. Ségoffin ?» Ce nouveau venu était un homme de 40 ans environ, de haute taille et d'une maigreur extrême. Il avait un très long nez légèrement retroussé à son extrémité, ce qui contribuait à lui donner une étrange physionomie. Du reste, son teint était si blême, sa figure complètement imberbe, toujours si impassible, que l'on eût dit le masque enfariné de Pierrot. Deux petits yeux, noirs et perçants, qui ne manquaient pas de malice, animaient seuls ces traits blafards d'une bonhomie narquoise. Une petite perruque courte, ronde et noire, qui de loin ressemblait à un serre-tête de soie, ajoutait encore à la ressemblance carnavalesque dont nous parlons. Une longue houppelande grise à boutons argentés, un pantalon noisette serré à la cheville par un cordon, qui laissait apercevoir des bareillés bleus et blancs, sur lesquels s'échancraient des souliers de cuir noir à larges boucles d'argent tel était l'accoutrement ordinaire de M. Ségoffin, qui tenait sous son bras un parapluie rouge et à la main un vieux tricorne. Après être resté 20 ans au service de M. Cloarec père, ancien magistrat, Ségoffin était, après la mort de ce dernier, entré chez son fils, qu'il avait vu enfant et qu'il servait avec un dévouement parfait. Notre homme, nous l'avons dit, avait été, dès son entrée, salué de ces mots, prononcés d'un ton railleur par les ouvrières. « Ah, voilà M. Ségoffin. Et bonjour donc, M. Ségoffin. » Ce personnage, sans se départir de son sang-froid habituel, déposa son parapluie et son chapeau sur une chaise, puis il alla très gravement enserrer dans ses longs bras la plus jolie des rieuses, et malgré ses cris effarouchés et sa résistance désespérée, il l'embrassa bruyamment sur ses joues rebondies. Très satisfait de ce prélude, il s'apprêtait même à récidiver, lorsque Madame Robert, le tirant par l'un des pans de sa redingote, s'écria tout indignée « Ségoffin, Ségoffin, vous êtes en vérité d'une audace et d'une indécence. » « Ce qui est fait, » dit sentencieusement Ségoffin, en passant sa main osseuse sur ses lèvres avec un air de jubilation rétrospective pendant que la jeune ouvrière quittait l'appartement avec ses compagnes, toutes trois riant comme des folles en disant « Bonsoir, monsieur Ségoffin, bonsoir. » Restée seule avec notre homme, Dame Robert s'écria « Il n'y a que vous au monde pour commettre des indignités pareilles, avec un tel sang-froid, dans la respectable maison d'un magistrat. »« Tiens, » demanda Ségoffin, d'un air naïf, « quoi donc ? Comment ? Quoi donc ? Embrasser cette jeune fille devant moi, lorsque vous me poursuivez avec acharnement de vos déclarations amoureuses ? Jalouse ! Jalouse, moi ! Rayez cela de vos papiers, Ségoffin. Si je me remariais jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, ce n'est pas vous que j'épouserai. Savoir. Comment ? Je le sais bien, peut-être. Ce qui sera, sera, ma chère. Mais... Allons, allons, reprit le flegmatique personnage en interrompant Suzanne Robert de l'air du monde le plus certain de son fait. Vous grillez d'envie de m'épouser, vous m'épouserez. Ce qui sera, sera, n'en parlons plus. Jour de Dieu ! S'écria la femme de confiance, exaspérée de l'outrecuidance du personnage. Puis se reprochant un pareil emportement, elle reprit avec un calme sardonique « Vous avez raison, monsieur Ségoffin. Ne parlons plus d'une pareille sottise. C'est ce que nous avons de mieux à faire. Parlons de monsieur. Tenez, voici son costume terminé. Portez-le chez lui, car il ne peut tarder à rentrer du tribunal. » « Ah !» fit Ségoffin en secouant la tête, « le tribunal. » Et il soupira profondément. Un soupir était chose si rare dans les habitudes de cet homme impassible que Dame Robert, devenant tout à coup inquiète, lui dit vivement « Qu'avez-vous à soupirer ainsi, vous qui ne vous émouvez ordinairement de rien ?»« Je m'y attendais, » reprit Ségoffin, hochant de nouveau la tête. « Ça devait arriver un peu plus tôt, un peu plus tard. »« Mais quoi donc, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ?»« Monsieur Cloarec, » reprit Ségoffin, avec un nouveau soupir, « a jeté monsieur le président du tribunal par la fenêtre. »« Ah, mon Dieu !» Ce qui est fait, il serait possible. Ce n'était d'ailleurs qu'un rez-de-chaussée élevé, un saut d'une toise tout au plus, ajouta Ségoffin avec l'accent d'un homme qui prend son parti d'un accident. Et le président, selon son habitude, est retombé sur ses pieds car c'est un fier finot. Allez, il sait se retourner, celui-là. Tenez, Ségoffin, je ne crois pas un mot de ce que vous me contez là. C'est encore une de vos histoires. Et en vérité, il est indigne. D'oser plaisanter ainsi sur monsieur que vous avez vu enfant et qui est si bon pour vous. Soit, reprit froidement Ségoffin, mettez que je plaisante. Mais en attendant, donnez-moi le costume de monsieur. Il m'a dit de le porter dans sa chambre. Il ne va pas tarder à rentrer. Hélas, c'est donc vrai, s'écria Suzanne, ne doutant plus de la fâcheuse nouvelle que lui apportait Ségoffin. Il y a donc encore eu quelques scènes entre monsieur et son président. « Dame, » reprit naïvement Ségoffin, « puisqu'il l'a jeté par la fenêtre. »« mon Dieu, mais alors cette fois-ci, monsieur va perdre sa place. Pourquoi ?»« Comment pourquoi ? Après un pareil scandale de la part d'un magistrat, on va lui ôter sa place, vous dis-je. Et cette pauvre madame, encore une secousse pour elle, et dans l'état où elle se trouve encore. Mais mon Dieu, ce n'est pas vivre, ça, être toujours en alerte, en émoi. » adorer son mari et avoir, à chaque instant, à redouter les suites de la violence de son caractère. Ma chère, rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, selon le proverbe de notre vieille Bretagne, reprit Ségoffin d'un ton sentencieux. Au loup, la forêt, au pigeon, le colombier. Or, monsieur Yvon, mais vous me faites bondir avec vos rébus et votre sang-froid, s'écria Suzanne. Dites-moi au moins comment ce malheur est arrivé. Eh bien, je suis allé il y a une heure au palais pour porter à monsieur la réponse d'une lettre. J'ai trouvé le palais sans dessus-dessous. Ah, mon Dieu, à cause de monsieur, c'est sûr. Écoutez-moi donc. Les avocats, tout le monde, allaient et venaient en disant « Vous ne savez pas ?»« Non, quoi donc ?» Il paraît qu'après l'audience, monsieur le président a fait appeler monsieur Cloarec dans son cabinet. « Ah oui, pour son duel. »«
Son duel ?»
s'écria dame Robert. « Quel duel ?»« Celui de ce matin, » reprit flegmatiquement Ségoffin. Et il poursuivit, profitant de la stupeur de la femme de confiance. D'autres disaient « Non, le président l'a fait appeler à cause de ce campagnard à qui il a enfoncé deux côtes d'un coup de tête et que l'on a transporté dans une boutique. »«
Quel campagnard ?» reprit Suzanne, dans un croissant émoi.
« Celui de tantôt, » répondit simplement Ségoffin. « Enfin, il paraîtrait, reprenait-on au palais, qu'il est allé dans le cabinet du président, qu'ils se sont échauffés et que finalement, il l'a jeté par la fenêtre.
« Ah, mon Dieu !»
dit Suzanne, en joignant les mains, tout effrayée. « Alors moi, » ajouta Ségoffin avec un sourire de satisfaction intime, « moi qui connais fort bien monsieur, je me suis dit tout de suite... S'il y a eu quelqu'un de jeté par la fenêtre, ça doit être l'autre. Et j'avais raison. Enfin, ce qui est fait, est fait. Je vais porter le costume chez monsieur.
Ce qui est fait, vous n'avez que cet insupportable refrain à la bouche. Ne voyez-vous pas les suites de ceci?
Ce qui sera, sera.
Belle consolation, n'est-ce pas?
Voilà déjà la troisième fois que monsieur aura risqué de perdre sa place, par suite de l'emportement de son caractère. Aussi, savez-vous ce qui malheureusement va arriver? Monsieur sera bel et bien destitué cette fois-ci.
Dame, s'il perd sa place, il la perdra.
C'est probable. Et comme il a besoin de cette place pour vivre, comme il a une femme et une petite fille, et que dans quelques mois il aura un autre enfant, puisque madame commence une grossesse, que voulez-vous que lui et sa famille deviennent sans cette place? Répondez à cela, avec vos proverbes. Au loup, la forêt. Au pigeon, le colombier. Comme je vous le disais tout à l'heure, ma chère.
Allons, s'écria Suzanne.
Encore ce sort ébu. Quel rapport cela-t-il avec monsieur?
Ça a ce rapport que monsieur, que j'ai quasi vu naître, puisque je l'ai vu courir tout petit sur les grèves de Penhoët, où, par parenthèse, il se donnait de fier raclée avec la marmaille des pêcheurs, a toujours été colère comme un coq en amour, un vrai breton bretonnant en diable, comme on dit au pays. Aussi, une fois la colère venue, la tête partie, il faut qu'il tape, ce cher homme. Il a toujours été comme ça. Hélas, malheureusement. Mais il n'en était pas venu à jeter des présidents par les fenêtres. Enfin, ce qui est fait. Puis, prenant le costume de son maître, Ségoffin dit à Suzanne, « Il ne manque rien à ses hardes ?»«
Ah ça, perdez-vous tout à fait la raison. Monsieur doit en vérité bien penser à aller à cette fête.
S'il y pense. » Il m'a recommandé de tenir le costume tout prêt, afin de pouvoir s'habiller de très bonne heure.
Comment? Après ce qui s'est passé tantôt, il irait à ce bal?
Je le crois bien, c'est impossible.
Vous le verrez.
Il irait à ce bal, qui est justement donné par le beau-père de monsieur le président.
Raison de plus.
Je vous dis que cela ne se peut pas. Monsieur n'oserait paraître à cette fête après les scandales de cette fatale journée. Ce serait soulever toute la ville contre lui.
Il s'y attend bien.
Il s'y attend?
Certainement. Et ce n'est pas cela qui le fera reculer, au contraire,
reprit Ségoffin d'un air triomphant.
Je l'ai vu après la fin de sa causette avec le président.
Mon bon monsieur Yvon, lui ai-je dit, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous arrête?
Personne n'a le droit de se mêler de ce qui s'est passé de particulier entre moi et le président, tant qu'il n'aura pas porté plainte, m'a répondu monsieur. Et cette plainte, je défie le président de la porter, car il lui faudrait faire connaître la cause de mon emportement contre lui, et il sera alors écrasé de honte.
Voilà, Suzanne, les propres paroles de monsieur.
Mais, lui ai-je demandé, irez-vous tout de même à ce bal?
Si j'irai, certes. Je veux arriver le premier, et en sortir le dernier.
Sans cela, on croirait que je regrette ce que j'ai fait, ou que j'ai peur.
Si ma présence à cette fête scandalise les autres invités et qu'ils me le témoignent, ou que je m'en aperçoive, je saurai répondre et agir. Sois tranquille. Retourne donc à la maison et que je trouve mon costume tout prêt en arrivant. Ah, quel homme! Quel caractère de fer! Dit Suzanne en soupirant. Toujours le même. Et cette pauvre madame, qui ne se doute de rien. J'emporte le costume, ajouta Ségoffin, et je vais attendre monsieur chez lui, car il ira à la fête. Aussi vrai que vous m'épouserez un jour, ma chère, rappelez-vous ça. Si ce malheur devait jamais arriver, répondit dame Robert courroucée, je tâcherai au contraire de n'y jamais songer. Et sortant d'un côté opposé à celui par lequel sortit Ségoffin, la digne femme, très alarmée de ce qu'elle venait d'apprendre, se rendit chez sa maîtresse, madame Cloarec.